Merci d'écouter RFI. Midi et demi en temps universel. Il est 13h30 ici à Paris et c'est l'heure d'Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Anne Cantner, bonjour à toutes et à tous. Afrique Midi encore largement consacré à la situation en République démocratique du Congo après l'entrée d'engommades de combattants du M23 et de soldats rwandais. À Kinshasa, des rassemblements populaires de protestation ont dégénéré. Les manifestants se sont concentrés devant plusieurs ambassades, notamment celles des États-Unis, de la France ou de la Belgique, qui ont été attaquées, certaines pillées. Sur place à Goma, d'intenses échanges de tirs ont été entendus ce matin dans la ville. Les hôpitaux sont débordés, 1 million de réfugiés ont traversé la frontière en direction de Gisenyi. Au Bénin, le procès d'Olivier Bocco, d'Osvaldo Mekki et de 4 autres personnes poursuivies pour complot contre l'autorité de l'État a repris ce matin à Cotonou. Les prévenus n'avaient toujours pas d'avocat, mais la Cour a tout de même décidé de poursuivre les débats. Et puis, les sports du football avec bien sûr le tirage au sort hier soir de la CAN à Rabat. Des groupes prometteurs sont sortis du chapeau. Le journaliste sénégalais Yoro Mangara, consultant de Radio Foot International, est notre invité. Des manifestations et des débordements ce matin à Kinshasa après l'entrée du M23 et de soldats rwandais dans la ville de Goma. Pauline Azidi, vous êtes en direct de la capitale congolaise. Des manifestations qui sont toujours en cours.
Oui, des rassemblements dans plusieurs endroits de la ville, dans les communes de Limete, Kitambo et surtout la Gombe, le centre administratif de Kinshasa. Les manifestants se sont dirigés vers plusieurs ambassades, Belgique, États-Unis, France, Ouganda ou encore celle du Kenya. Des pillages et des dégradations signalées dans plusieurs d'entre elles. Un incendie a aussi été signalé dans les bureaux de l'ancienne ambassade du Rwanda, fermée actuellement. Des magasins et des restaurants ont aussi été pris pour cible. Les manifestants font part de leur colère après les derniers événements dans l'Est. Ils dénoncent l'inaction de la communauté internationale. Les activités en ville sont quasiment suspendues. Peu de véhicules circulent depuis ce matin. Le Premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacquemin Chabani, a lancé un appel au calme aux manifestants sur la radio Top Congo il y a un peu plus d'une heure. Que chacun rentre chez lui. Votre colère a été exprimée et entendue. Concentrons-nous sur l'essentiel, la défense de notre patrie. Même message du ministre de la communication Patrick Moumaïaïa qui a appelé au calme. On attend désormais une prise de parole du président Félix Tshisekedi, prise de parole annoncée hier soir par le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe à la sortie d'une réunion interinstitutionnelle.
Pauline Azidi en direct de Kinshasa. J'ajoute que le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot déclare que les manifestants ont provoqué également un incendie désormais maîtrisé à l'ambassade de France. Il qualifie ces attaques d'inadmissibles. Voyons à présent ce qui se passe à Goma. Après une nuit relativement calme, d'intenses échanges de tirs ont repris ce matin à Mélitulé, dans la zone de l'aéroport.
Oui, ils ont repris un peu avant 6h30 ce matin, heure locale, dans la partie est de la ville. De fortes détonations entendues notamment dans les quartiers Biriré et Bijovu et sur l'axe qui relie le camp Katindo, l'aéroport et la ville rwandaise de Gisenyi. Ce matin, les forces congolaises et leurs alliés étaient présentes dans cette zone de l'aéroport. En revanche, dans la partie ouest de Goma, dans plusieurs secteurs, c'est la présence du M23 qui était signalée. Aucun bilan global des combats pour l'heure, mais une communication des forces sud-africaines. Les rebelles du M23 ont lancé, je cite, une bombe de mortier en direction de l'aéroport. Elle a atterri, cette bombe, dans la base de l'armée sud-africaine, tuant 3 soldats. Ainsi, au total, ce sont 13 soldats sud-africains qui sont morts depuis vendredi, certains déployés au sein de la force de la SADC, d'autres de la MONUSCO. Quant aux civils, Nicolas, des habitants qui, profitant de moments d'accalmie, peuvent sortir de chez eux, parlent de corps nombreux sur les routes.
Une situation humanitaire très grave que confirme Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint de l'ONU en RDC, joint il y a une heure par Guillaume Thibault.
Il y a encore beaucoup de tirs, y compris à l'arme lourde, beaucoup de personnes tuées. Les services de base à Goma sont toujours très gravement perturbés, l'eau, l'électricité. Les hôpitaux sont débordés, donc ils n'arrivent plus à gérer l'afflux des blessés. Simplement hier, dans l'hôpital principal, pour gérer les cas graves, il y a eu 256 blessés, des blessés par balle, des blessés par éclat d'obus, donc beaucoup de blessés graves. Ce matin, donc, on nous a rapporté beaucoup de pillages des agences humanitaires des Nations Unies, pillages de nourriture, de vivres d'urgence et de stocks de médicaments. Nous demandons l'ouverture de corridors humanitaires, la réouverture de l'aéroport, le passage des frontières pour les gens qui doivent bouger à cause du niveau de danger. Il faut vraiment la fin des hostilités.
Vive préoccupation exprimée aussi ce matin, militulée par le PAM, le Programme Alimentaire Mondial.
Oui, qui se dit très inquiet face au risque de pénurie de nourriture. Les distributions d'aide alimentaire sont suspendues à Goma et dans ses environs à cause des combats. Selon le PAM, les prochaines 24 heures seront cruciales car les gens commencent à manquer de provisions. 1,5 million de personnes ont été déplacées rien que ce mois de janvier dans le Nord Kivu, rappelle Filippo Grandi, haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. L'agence de l'ONU qui dit suivre de près les mouvements transfrontaliers. De nombreux civils attendent d'évaluer la situation avant de prendre une décision. Le HCR rappelle que les conséquences humanitaires de cette escalade dans l'est de la RDC ne sont pas seulement des préoccupations régionales, mais une responsabilité mondiale.
Et on retrouve à présent Lucie Mouillot à Gisenyi, de l'autre côté de la frontière, côté Rwanda. Lucie, de nombreux réfugiés congolais ont traversé cette frontière ce matin.
En effet, la grande barrière, le poste frontière principal entre les deux villes, a rouvert ce matin pour laisser passer les réfugiés venant de Goma. À la mi-journée, les autorités rwandaises avaient enregistré l'arrivée de plus de 1200 personnes. Des déplacés amenés ensuite à Rugerero, à moins d'une dizaine de kilomètres de la ville, sur un terrain vague où des tentes ont été installées pour l'enregistrement et les soins des blessés. La plupart des réfugiés avec qui j'ai pu parler disent avoir tenté leur chance vers la frontière malgré les nombreux échanges de tirs tôt ce matin, une course dans la panique et dans des rues désertées de Goma. Beaucoup disent avoir vu des blessés et des corps sur le chemin. Certains ont perdu des membres de leur famille dans le désordre et les recherchent désormais dans le camp de déplacés du côté rwandais de la frontière. Depuis le milieu de la matinée, les échanges de tirs se sont largement calmés. On n'entend plus de détonations depuis un certain temps à Gisenyi, une accalmie qui a permis la reprise des activités dans la ville et la réouverture des commerces.
Lucie Mouillot, envoyée spéciale de RFI à Gisenyi. Dernière info, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine doit tenir en cette mi-journée une session d'urgence. Pour continuer à suivre la situation dans l'est de la RDC, suivez notre direct sur le site de RFI. Le procès d'Olivier Bocco, d'Osvaldo Mecchi et de 4 autres personnes poursuivies pour complot contre l'autorité de l'État a repris ce matin au Bénin. Jeudi dernier, la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, avait accordé un délai aux accusés pour trouver de nouveaux avocats après le retrait de leur premier défenseur. Jean-Luc Aplogan, vous êtes à la CRIET. Ce matin, les avocats se sont présentés sans avocat, expliquant que l'administration pénitentiaire ne leur avait pas facilité la tâche. Mais pour la Cour, ce qui leur arrive est de leur seule responsabilité. Elle a donc décidé, Jean-Luc, de poursuivre les débats.
Absolument, et l'audience a repris sans avocat de la défense. Les premiers à défiler à la barre sont les témoins. C'est le troisième qui déposait au moment où je quittais la salle pour ce direct. Le témoin qui a retenu l'attention est le chef de la garde républicaine, le colonel Dieudonné Tevoidré. Il comparaît libre. L'officier raconte qu'il a été approché par l'ancien ministre des Sports, Osvaldo Mecchi, ami de longue date, dont il dit être très proche, pour renverser Patrice Talon par la force le 27 septembre 2024. Ils se sont vus plusieurs fois pour en parler. L'officier a communiqué les dates des rencontres. Le colonel déclare avoir adhéré au projet pour aller au bout, connaître la vérité et démanteler le projet. La logistique de l'opération a été évaluée à 1,5 milliard de francs CFA, somme que lui remettait le ministre à son domicile quand ils ont été interpellés. Le commandant de la garde républicaine dit n'avoir jamais parlé du projet de coup d'État avec Olivier Bocco. Pas d'avocat de la défense pour l'interroger, seul le ministère public et la présidente lui ont posé des questions. Le public attend impatiemment la version des faits des accusés.
Jean-Luc Aplogan, correspondant de RFI à Cotonou. Des manifestations dans plusieurs villes du Burkina Faso à la veille du retrait effectif de la CEDEAO de ce pays et de ses partenaires de l'Alliance des États du Sahel. Abdoulaye Diko, plusieurs milliers de personnes sont sorties un peu partout au Burkina pour soutenir cette décision.
Oui, Nicolas, la chaîne burkinabé diffuse depuis ce matin les images de la foule rassemblés sur la place de la Révolution à Ouagadougou, les uns avec les drapeaux des 3 pays de l'AES et de la Russie, d'autres avec des pancartes sur lesquelles on peut lire « Abat la CEDEAO pourrie, Vive l'AES. 28 janvier 2025, on ne veut plus de la CEDEAO, nous voulons la paix. Vive l'AES, entre autres. Et puis, il y a ces militants qui expliquent « Nous sommes mobilisés pour montrer que la sortie de la CEDEAO n'est pas une simple décision des chefs d'État. Les peuples de l'AES soutiennent leur président, affirment ce soutien des autorités militaires. » Ces rassemblements ont eu lieu dans plusieurs villes du pays. À Fadangourouma, chef-lieu de la région de l'Est, la foule scandait « Oui à l'AES, non à la CEDEAO ». Ou adieu la CEDEAO pour mains liées. Même dynamique à Djibo et région du Sahel, les manifestants se sont retrouvés pour ériger les fondations des ronds-points, déjà baptisées au nom de l'AIS. À Tenkodougou, la région du centre-est, les manifestants ont transporté, à bout de bras, un faux cadavre enveloppé dans un drapeau aux couleurs de la CEDEAO, comme pour simuler la mort de l'organisation ouest-africaine.
Et j'ajoute que des manifestations de soutien au retrait de la CEDEAO sont signalées également au Niger. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune réclame un accord gagnant-gagnant avec l'Union européenne. On parle de l'accord d'association avec l'UE entré en vigueur en 2005 et dont le chef d'État, Miras Wilhem, veut rediscuter les termes.
Un accord caduc, plus en phase avec la réalité économique de son pays. C'est ainsi que Abdelmadjid Tebboune a présenté les choses en Conseil des ministres hier. Jusqu'ici, l'Algérie exportait essentiellement du gaz et du pétrole vers l'Europe et importait en échange des produits manufacturés. Mais 20 ans plus tard, l'Algérie, qui a développé son industrie, estime ne plus avoir besoin d'autant de produits importés d'Europe et souhaite même doper ses exportations agroalimentaires vers les marchés européens. Des velléités vues d'un mauvais œil par les Européens qui assistent à l'effondrement de leurs exportations. De plus de 22 milliards d'euros en 2015, elles ont chuté à environ 15 milliards en 2023. En juin dernier, Bruxelles a donc décidé de formaliser ses griefs en enclenchant une procédure dite de règlement de différends contre Alger. Un bras de fer économique sur fond de tensions politiques autour de la question du Sahara occidental ou encore des libertés. Jeudi dernier, je vous le rappelle, le Parlement européen avait voté une résolution appelant à la libération de l'écrivain Boualem Sansal ainsi que d'autres détenus d'opinion. Le texte proposait même de conditionner, je cite, les futurs versements de fonds de l'Union au progrès accompli. Alors, une dernière question. Abdelmadjid Tebboune souhaite-t-il rééquilibrer les relations économiques avec l'Union européenne ou envoyer le message que son pays peut, lui aussi, frapper les Européens au porte-monnaie? Probablement les deux.
13h42 à Alger.
Afrique Midi sur RFI.
Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, le rapport sur le rôle de la France dans la répression des mouvements indépendantistes camerounais remis cet après-midi au président Biya. Et les sports, on revient bien sûr sur le tirage au sort hier soir des groupes de la CAN. En plus bref, dans l'actualité africaine de ce mardi au Gabon, le ministre de l'Intérieur annonce la prolongation des opérations de révision des listes électorales. Elles se termineront le 8 février au lieu du 31 janvier en raison de la forte affluence observée depuis l'annonce de la présidentielle. Il y a une semaine, il était remis à huis clos à Paris à Emmanuel Macron. Le rapport sur le rôle de la France dans la répression des mouvements indépendantistes camerounais est présenté cet après-midi à Yaoundé, au président Biya. Ce document est le fruit d'un travail mené depuis mars 2023 par des historiens camerounais et français. Pierre Fiation, il s'inscrit dans le cadre de la politique mémorielle voulue par Emmanuel Macron.
Après avoir initié les travaux d'historien sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie, puis sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda, le président français appelle en juillet 2022, lors d'une visite au Cameroun, à la mise sur pied d'une commission conjointe chargée de faire la lumière sur l'action de la France au Cameroun pendant la colonisation et après l'indépendance du pays. Il convient d'établir factuellement des responsabilités, précise alors Emmanuel Macron, tout en estimant qu'il s'agissait là d'un sujet refoulé en France comme au Cameroun. L'histoire est en effet méconnue, car la répression menée contre les militants indépendantistes par l'armée française, puis après l'indépendance, par l'armée camerounaise du régime d'Amadou Ahidjo, a longtemps été tue. Cette volonté d'Emmanuel Macron tarde à se concrétiser, la commission ne voit le jour qu'en mars 2023. Dirigée par la chercheuse française Karine Ramondi, elle est composée à part égale d'historiens camerounais et français. Durant 20 mois, ces 14 chercheurs vont analyser la nature de la répression et le rôle joué par la France entre 1945 et 1971. Leur rapport sera rendu public ce mardi, après avoir été remis au président Biya. Ce que l'on sait pour l'heure, c'est que ce document fait plus de 1000 pages et qu'il est assorti de recommandations.
Les sports du football, c'était hier soir à Rabat, le tirage au sort de la phase finale de la CAN 2025, la Coupe d'Afrique des Nations que le Maroc accueillera dans moins d'un an. Frédéric Suteau, les 24 équipes qualifiées ont été réparties en 6 groupes de 4, un tirage alléchant.
Oui, alléchant, tirage équilibré, des enjeux, des affiches partout dans tous les groupes. Le groupe A, par exemple, celui du Maroc, pays organisateur, les Lions de l'Atlas ouvriront le bal le 21 décembre contre les Comores, l'un des petits poussés de la compétition, qui en 2022 au Cameroun avait atteint les huitièmes de finale. Pas de complexe à nourrir, donc nous dit le sélectionneur des Sélacantes, Stefano Cousine.
Bon, le groupe est difficile, c'est normal, parce que pour nous, jouer le match d'ouverture contre le Maroc, c'est quelque chose de fantastique du point de vue émotionnel et sportif, mais au niveau de la difficulté, c'est difficulté 10, donc, on va bien se préparer pour.
Maroc-Comores dans un groupe qui comprend aussi, Nicolas, le Mali et la Zambie. Les Aigles du Mali, quart de finaliste de la dernière CAN, est désormais entraîné par l'expérimenté Tom Saint-Fit.
L'une des affiches du
premier
tour.
On va l'écouter, Tom Saint-Fit.
Bien sûr, on l'écoute.
Allons-y.
Je suis très content avec les tirages. On va jouer contre Maroc ici au Maroc. C'est toujours fantastique. Et avec Comores et Zambie, c'est deux équipes fortes. Mais on va être très bien préparé. Je suis très content avec ce tirage. Et on va être prêt.
Tom Saint-Fit, qu'on est heureux d'avoir écouté. L'une des affiches du premier tour, Frédéric Suteau, ce sera bien sûr le Côte d'Ivoire-Cameroun du groupe F.
Les éléphants ivoiriens, champions d'Afrique en titre face aux compétiteurs nés que sont les Lions Indomptables. Un groupe où se trouvent aussi le Gabon et le Mozambique, sachant, rappelons-le, que les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs deuxièmes se qualifieront pour les huitièmes de finale. Il y a de la marge. Marc Brice, le sélectionneur du Cameroun, espère être de la fête dans un an. Hier, il a passé un petit coup de gueule, fatigué du bras de fer sans fin entre la FECAFOOT de Samuel Eto'o et le gouvernement camerounais.
Je dois être honnête, c'est pas constructif de travailler plus longtemps comme ça. Ça absorbe beaucoup d'énergie de moi, mais aussi des autres coaches. Ça doit changer, ça doit arrêter maintenant avec le connerie, parce que ça m'énerve beaucoup, ça c'est juste.
Oui, Marc Brice, faut arrêter avec les conneries.
Cuite du Sénégal, Frédéric Suteau. Bon tirage.
Pas simple, les coéquipiers de Sadio Mané qui vont devoir se frotter à la RDC, au Bénin et au Botswana. Un Sénégal en reconquête, dixit le sélectionneur Pape Thiaw.
On sait que nous, on est le Sénégal. On va être assez focus sur notre équipe. Aujourd'hui, on connaît le tirage effectif. Maintenant, on va se mettre place au travail, comme on dit. La mission du Sénégal ne change pas, parce qu'aujourd'hui, quand on est deuxième en Afrique et 17e dans le classement FIFA, donc quand on va dans une compétition, c'est pour aller chercher le trophée.
Allez, une réaction, encore une dernière, Nicolas, celle d'Eric Schell, le franco-malien, qui vient d'arriver, là, il y a quelques semaines, du côté des Super Eagles du Nigeria, nouveau sélectionneur. Pour lui, la CAN, c'est encore loin. Il préfère se focaliser, vous allez l'entendre et le comprendre, sur les éliminatoires de la Coupe du Monde.
Je pense qu'il n'y a pas de bon tirage. Toutes les équipes ont une chance de gagner. Maintenant, moi, je suis concentré sur mes matchs du mois de mars. Ensuite, il y a d'autres matchs. Et à partir du mois d'octobre, je serai concentré sur cette CAN. Mais d'abord, qualifions-nous pour cette Coupe du Monde et ensuite on aura le temps de bien bosser et de continuer à progresser.
Eric Schell, et puis on y revient, Frédéric Suteau, sur ces éliminatoires de la CAN dans une minute avec Yoro Mangara, consultant à Radio Foot International. Il est notre invité. Il est 13h48 à Paris. Yann Kantner, les grands titres de ce mardi 28 janvier.
La démission du Premier ministre serbe et du maire de Novi Sad, cette ville dans laquelle l'auvent d'une gare s'était effondré en novembre dernier, provoquant la mort de 15 personnes. Depuis, des manifestations dénonçaient très régulièrement la corruption et l'incompétence des autorités, avec hier encore un immense rassemblement à Belgrade et puis une grève générale ces derniers jours. La guerre en Ukraine, les forces russes revendiquent la prise d'un nouveau village dans le nord-est du pays, dans la région de Kharkiv, ce qui leur permet de se rapprocher de la ville stratégique de Kupiansk, alors que l'armée ukrainienne est en très grande difficulté sur l'autre front, dans l'est de l'Ukraine. Le Qatar répète son soutien à une solution à deux États au Proche-Orient, israélien et palestinien. Message après les propos très controversés du président américain sur des déplacements de population de Gaza vers la Jordanie ou l'Égypte. Et puis l'appel à la prudence du gouvernement australien concernant l'intelligence artificielle chinoise DeepSeek. Elle a des capacités équivalentes à celles des géants américains, mais a été développée avec beaucoup moins d'argent. Et si le patron patron d'OpenAI trouve son rival impressionnant. Donald Trump, lui, y voit un avertissement pour les États-Unis. Et on revient maintenant, comme promis, sur les tirages au sort de la CAN. C'était hier soir à Rabat. Le journaliste sénégalais Yoro Mangara, consultant à Radio Foot International, est avec nous.
Bonjour Yoro Mangara.
Bonjour et bonjour aux auditeurs de RFI.
Frédéric Suto nous disait que tous les groupes sont passionnants. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Tous les groupes sont passionnants, mais je suivrai avec attention celui du Sénégal, le groupe D, Sénégal, République démocratique du Congo, Bénin, Botswana, mais également le groupe F, Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Mozambique.
Alors, on va revenir sur ces différents groupes. Un mot tout d'abord sur le match d'ouverture annoncé, Maroc-Comores, le favori contre le petit poussé. Est-ce que vous avez des espoirs pour laisser la cante comorien ?
Ah ben oui, leur dernière participation à la Coupe d'Afrique des Nations, ils ont été héroïques, éliminés par le Cameroun. C'est vrai qu'ils ont raté la précédente édition. Et puis, il y a une forte colonie comorienne à Marseille. Marseille-Maroc, c'est pas loin. Ils seront également dans les gradins. Ce sera peut-être l'autre équipe qui va jouer à domicile.
Dans le groupe du Maroc, il y a également le Mali de Tom Saint-Fitt qui a envoyé la Gambie aux deux premières CAN de son histoire. Est-ce qu'il y a un espoir pour vous, pour les Aigles maliens ?
Ils ont un bon groupe, ils ont de très bons joueurs, surtout au milieu de terrain, d'excellents footballeurs. C'est un pays qui bénéficie de centres de formation de Jean-Marc Guillou. Ils sont énormément nombreux dans les grands clubs européens. Yves Bissouma à Tottenham, on les connaît, on les voit chaque week-end. Et aujourd'hui, je crois qu'ils ont un entraîneur qui peut faire passer le Mali ce cap. Ils étaient pas loin il y a 2 ans, éliminés en quart de finale par la Côte d'Ivoire. Mais le Mali, oui, ça pourrait être l'une des belles surprises de cette Coupe d'Afrique des Nations.
Vous nous parliez du groupe F, un choc entre la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique d'Emers Faé, et le Cameroun, 5 fois lauréat du titre, qui sera sous la conduite de Marc Brice. Quel est votre pronostic ?
Alors, je crois que la Côte d'Ivoire est pour l'instant devant le Cameroun en termes de talent. Oui, mais c'est la belle famille depuis les éliminatoires de la Coupe du Monde 2006. Ces deux équipes vont s'écharper sur les réseaux sociaux, certes. Mais ça reste qu'un match de poule. On l'a vu récemment, la Côte d'Ivoire était en difficulté en phase de poule, mais ça n'a pas empêché les Ivoiriens d'être champions d'Afrique. Donc ça va, pour moi, ça va basculer du côté ivoirien, mais ça reste qu'un match de poule.
Et les deux passeront au deuxième tour.
Je crois que les deux passeront au deuxième tour parce que même s'il y a un derby de l'Afrique centrale entre le Cameroun et le Gabon, mais en termes footballistiques, la Côte d'Ivoire et le Cameroun sont largement au-dessus du Gabon et du Mozambique. Le Mozambique, une équipe joueuse, mais je crois en deçà des deux premières nations citées.
Le Sénégal, à présent champion 2019 dans le groupe d'une RDC au top de ses ambitions. Est-ce que les Léopards seront un prétendant sérieux pour cette édition de la CAN ?
Ils ont fait demi-finale. L'objectif, ce sera de passer en finale, mais... dans ce groupe, il y a le Sénégal. Le Sénégal, pour moi, est l'une des meilleures nations africaines, même si ces deux équipes se connaissent très bien. Au mois de juin, elles se sont rencontrées en éliminatoire de la Coupe du Monde. La RDC a réussi quand même à faire match nul au Sénégal, un but partout au stade de Jamnadio. Oui, la RDC, on le connaît, il y a le vivier, il y a tout. Ils ont un bon entraîneur, mais je crois que le Sénégal est pour l'instant au-dessus de la RD Congo. Après que la RDC soit demi-finaliste, moi, ne me surprendrai pas.
Yoro Mangara, un mot sur l'ambiance qui s'annonce pour cette CAN. Pour le Maroc, c'est en quelque sorte une répétition du Mondial 2030 qu'il co-organise avec l'Espagne et le Portugal. Pas le droit à l'erreur pour le Maroc, pour l'organisation ?
L'organisation sera top parce que c'est la première fois qu'on va jouer dans 9 stades. Ils ont les moyens, ils vont montrer aux yeux du monde que le Maroc peut accueillir la Coupe du Monde. Et puis maintenant, cette Coupe d'Afrique me rappelle celle de 88 que le Maroc avait organisée. Le Maroc sortait d'une belle Coupe du Monde en 86. Et avec les Badou Zaki, toute cette belle génération, voilà, le Maroc se fera éliminer en demi-finale par les Lions indomptables du Cameroun qui vont remporter le trophée face au Nigeria. J'espère que ce grand du monde, parce que le Maroc est aujourd'hui une grande équipe mondiale, sera enfin une grande équipe africaine et respectée, surtout sur son sol.
Et si ça se passe bien pour la CAN Maroc 2025, est-ce que le pays pourrait organiser la finale du mondial ? Ça n'est pas encore tranché à l'heure actuelle.
C'est pas tranché, mais je crois, vu les installations marocaines, il y a largement de quoi faire une belle finale de la Coupe du Monde sur le sol africain. l'Afrique sait faire. L'Afrique avait fait en 2010 et c'était une belle réussite en Afrique du Sud. Et je crois que ce serait quand même bien pour le continent africain, pour ce football africain, d'avoir une deuxième finale de Coupe du Monde sur le sol africain.
Merci Yoro Mangara. On retrouve vos analyses bien sûr dans Radio Foot International et cet entretien sur le www.rfi.fr et sur nos applications. Rubrique invité, onglet invité d'Afrique Midi. Direction Madagascar à présent, où on découvre une entreprise sociale, une entreprise qui se consacre à des problèmes sociétaux et réinvestit la majorité de ses bénéfices dans la poursuite de sa mission. Nutrizaz, c'est son nom de cette entreprise, commercialise depuis 12 ans une farine infantile fortifiée qui est vendue sous forme de bouillie chaude en porte-à-porte dans les quartiers vulnérables des grandes villes de l'île. Chaque jour, ce sont plus de 36 000 rations qui sont distribuées. Reportage Sarah Teto.
C'est par un cri reconnaissable que la vendeuse de bouillie Koubaïn avertit les riverains de ce bidonville de la capitale de son passage imminent. L'employé de Nutrizaz, Zaz signifiant enfant en malgache, déambule d'un pas vif d'une ruelle à une autre pour vendre un maximum de rations de la bouillie qu'elle a préparée aux aurores. Comme elle, ils sont près de 200 animateurs à assurer quotidiennement la distribution de la farine fortifiée dans l'île.
Tous les animateurs de Nutrizaz sont des salariés, dont 75% sont des femmes issues des quartiers vulnérables.
Un modèle inclusif dont Manje Siranjamirsou, qui dirige l'entreprise sociale, est très fier.
Le système de rémunération d'une animatrice, c'est que Nutrizaz fournit de la matière première, l'animatrice se met à cuire et distribuer. En plus d'avoir un salaire fixe qui est 1,4 fois supérieur au SMIC malgache, hein, 600 000 arrières mensuels. Lors de chaque tournée, elle a une survente qu'elle garde pour elle, que Nutrizaz ne comptabilise pas. On n'a jamais cessé de croître depuis 2020, au fait. Et d'ailleurs, en 2023, on a atteint un chiffre d'affaires de plus d'un million d'euros, ce qui était du jamais vu. Et chaque année, normalement, Nutrizaz a fait une croissance d'environ 15%. Des fois, c'est 20.
Et des fois, c'est 5. L'année 2024 a en effet été très rude. Un ralentissement que l'entreprise attribue à la paupérisation de la population et à la baisse de son pouvoir d'achat. Toutefois, aux yeux du GRET, l'ONG à l'origine du développement de la recette de la farine fortifiée il y a 20 ans, Nutrizaz reste une success story et Claire Caboret, sa représentante à Madagascar, explique pourquoi.
Nutrizaz est totalement autonome financièrement, même si elle reçoit quelques subventions, notamment de l'AFD, pour lui permettre soit de tester des nouveaux produits, des nouveaux services ou d'étendre son réseau de distribution dans des nouveaux quartiers populaires. Ça demande un peu de moyens que Nutrizaz n'a pas, étant donné que les marges sont très réduites. Mais si demain la subvention s'arrête, Nutrizaz est rentable. Et donc c'est une success story dans le sens où Nutrizaz arrive à vendre une bouillie totalement équilibrée et aux normes internationales en termes de qualité, à des prix abordables parce qu'ils ont été formulés dans ce but vraiment qu'ils soient le moins cher possible pour les populations de ces quartiers-là.
Aujourd'hui, la production de ces produits est sous-traitée à des industriels partenaires. À terme, l'entreprise sociale aimerait acquérir sa propre unité de production afin de faciliter la recherche et le développement de nouveaux produits pour répondre aux besoins sans cesse croissants des populations vulnérables. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
Et c'est à Antananarivo que se referme cette demi-heure africaine, réalisée et préparée avec Laurent Chaffard, Benoît Raymond et Cécile Périllard. Merci à eux et merci à vous de nous avoir suivis. Dans deux minutes à peu près, selon votre zone d'écoute, vous retrouvez Anne Cantner pour le rendez-vous de Haïti et des Amériques. 30 minutes d'infos en full D ou notre session en langue portugaise. Très bon après-midi, à demain.
Ce mardi sur RFI.
Que font les humains avec la vie ?
Autour de la question avec Caroline Lachowski.
Toutes les sociétés humaines célèbrent à leur manière, à travers une diversité de rituels, de croyances, de cultures et de techniques, le pouvoir et la fragilité de la vie. Qu'ont-elles à nous apprendre pour mieux vivre ensemble sur Terre ? Comment faire l'anthropologie de la vie ?
Autour de la question, tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. demain.
Reconnaître les symptômes de la goutte, cette maladie chronique qui provoque des crises douloureuses.
Jeudi.
Journée mondiale des maladies tropicales négligées.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Ce mardi sur RFI.
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Juliette Gerbrandt.
C'est une page oubliée de l'histoire italienne. Les trains des enfants ou trains du bonheur. Dans les années 40, des enfants de milieux défavorisés du sud du pays étaient envoyés vers le nord, beaucoup plus riches, pour grandir dans des foyers aisés. Ils ont été plus de 70 000 à être